Marcaillais, par la grâce de Dieu et l'autorité du Saint-Siège apostolique, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Considérant les besoins du diocèse de Bayonne et désireux de promouvoir la formation des futurs prêtres diocésains, je crée ce jour le séminaire des cinq heures de Jésus et de Marie. Séminaire diocésain de Bayonne, pour assurer la formation humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale des candidats au ministère sacerdotal. Le séminaire jouira de la personnalité publique selon les normes du Code de droit canonique. Les formateurs suivront le programme de la formation sacerdotale établi par la Conférence des évêques de France, approuvé par le Saint-Siège, et le règlement intérieur du séminaire, approuvé par l'évêque diocésain. Donné à Bayonne le 15 août 2010, en la fête de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Marcaillais, par la grâce de Dieu et l'autorité du Saint-Siège apostolique, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron, à Monsieur l'abbé Jacques de Mesmet, prêtre du diocèse de Bayonne, en vertu de notre autorité ordinaire et par la teneur des présentes, vous nommons recteur du séminaire diocésain de Bayonne. Vous gardez les missions déjà confiées, responsable du service diocésain de la pastorale des vocations, responsable de la formation propédeutique. Cette nomination prend effet le 1er septembre 2010, donnée à Bayonne le 1er juillet 2010.
C'est officiel, vous venez de l'entendre de la bouche de notre évêque, Mgr Marcaillais. Le séminaire diocésain de Bayonne est ouvert depuis le 11 septembre 2010. En effet, la messe de rentrée du séminaire de la propédeutique de Bayonne a été présidée le 11 septembre par notre évêque, Mgr Marcaillais, en l'église Saint-Amand de Bayonne. L'église de Saint-Amand était comble lorsque Mgr Marcaillais a lu, non sans une certaine émotion, le décret de création du séminaire diocésain de Bayonne confié à la protection des cinq cœurs de Jésus et de Marie. C'est dans l'action de grâce que l'assemblée a alors entonné le chant du Gloria. Écoutons maintenant l'homélie de Mgr Marcaillais, notre évêque, lors de la messe de rentrée du séminaire le 11 septembre 2010 en l'église Saint-Amand de Bayonne.
Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, ce n'est pas sans une certaine émotion que j'ai lu tout à l'heure, au début de la messe, ce décret de création du séminaire diocésain de Bayonne, séminaire qui avait été si florissant dans notre diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, qui a donné tant de vocations au service de l'Église, non seulement de notre diocèse, mais aussi de l'Église universelle. Je veux parler de tous les fils de notre pays basque, comme du Béarn, qui sont partis vers les terres lointaines pour annoncer l'Évangile, en Asie, au Vietnam, que j'ai visité cet été. On m'a dit qu'il y avait 37 fils du Pays Basque qui, au XXe siècle, sont allés évangéliser le seul Vietnam, sans compter tous les autres pays d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine. Et c'est pour moi une grande joie, comme pour vous sans doute, que nous puissions très modestement et très humblement rouvrir ce séminaire diocésain qui avait été fermé il y a 5 ans, en 2005. Et ce fut, je crois, pour l'avoir compris depuis que je suis entré dans ce diocèse, une grande souffrance et un grand choc, non seulement pour le peuple chrétien que vous êtes, mais en particulier pour les prêtres. Quel village du Pays Basque intérieur ou du Béarn ne peut pas s'honorer aujourd'hui encore d'un, deux, trois, quatre, jusqu'à 10 peut-être, prêtres encore vivant, au moins dans les mémoires. C'est un acte de foi, hein. Il n'y a aucun calcul humain qui puisse nous permettre aujourd'hui, avec, somme toute, un faible effectif. Jésus a commencé avec 12. Ils sont 13, allez, à se mettre en route, si l'on compte les deux jeunes qui entrent cette année en propédeutique. C'est un acte de foi dans la providence de Dieu qui guide nos pas et qui pourvoit aux besoins de son Église comme un père qui a soin de ses enfants. Un acte de foi affermi par l'espérance. Et l'espérance, vous le savez bien, comme disait si bien Charles Péguy, c'est une petite flamme vacillante. C'est une petite fille qui marche entre ses deux grandes sœurs, la foi et la charité, et qui affermit leurs pas dans sa pauvreté, dans sa faiblesse, parce que, comme nous dit l'apôtre, Dieu manifeste sa puissance dans notre faiblesse. Alors je confie bien sûr tout cela à votre prière, n'est-ce pas ? Je sais bien que le fait de pouvoir ouvrir aujourd'hui un séminaire à Bayonne, comme nous avons ouvert exactement l'an dernier une année de propédeutique, c'est le fruit de la prière, ça, non ? Et de l'offrande des fidèles, du peuple chrétien, des consacrés, des prêtres qui n'ont pas capitulé et qui frappe incessamment à la porte du cœur de Dieu pour qu'il donne des vocations à son Église, parce que c'est lui qui donne des vocations. Pour autant, vous le savez bien, je l'ai déjà dit 100 fois, si les vocations sacerdotales, et c'est vrai aussi, des vocations à la vie consacrée, sont un don de Dieu, elles ne tombent pas comme ça du ciel. Mais il y a besoin d'un terreau. Il y a besoin d'un terreau. Et ce terreau, ce sont les familles chrétiennes. Ce sont les communautés chrétiennes. Soyons bien sûrs, chers frères et sœurs, sans complaisance, que lorsqu'une communauté chrétienne n'est plus capable de susciter des vocations sacerdotales ou des vocations à la vie consacrée, c'est un drame. Car le signe par excellence de la vitalité, vous m'entendez ? De nos communautés chrétiennes, et je sais bien qu'il y a beaucoup de signes de vitalité dans nos communautés chrétiennes, mais le signe par excellence de la vitalité de nos communautés chrétiennes, ce sont les vocations à la vie consacrée et les vocations sacerdotales qu'elles sont capables de susciter. Des vocations au don total de sa vie pour Dieu et pour ses frères. Comme la vitalité d'une société vient de notre capacité d'ouverture à la vie. Il y a un lien dissociable entre le don de la vie et le don de sa vie. Quand on transmet la vie, quand on transmet la foi, parce que la vie chrétienne, c'est la foi qui se transmet de génération en génération, en particulier aux jeunes générations, au sein des familles, au sein des écoles, au sein des communautés chrétiennes. Ces jeunes qui aujourd'hui entrent en propédeutique ou en première année, après avoir pour 4 d'entre eux accompli une propédeutique. Je suis content de voir que le 5e, qui fait partie pleinement de l'aventure, est parmi nous. Il a commencé un temps de convalescence maintenant, n'est-ce pas ? Pour recouvrer pleinement la santé, puis après il verra quel est le discernement que le Seigneur lui inspirera. Et puis les 4 aussi, qui, après avoir commencé un cursus, sont accueillis dans le diocèse, dans une paroisse, pour une année de stage, de discernement. Et puis Amador, qui après son stage à l'Escar, va continuer son chemin de formation, commençant maintenant le second cycle, à Ars, où il a commencé. Et puis notre diacre, tout nouvellement ordonné, pour le diocèse, qui a proclamé l'Évangile avec toute sa foi, a transporté les montagnes de son Béarn natal et qui va faire une année diaconale à Naye et Borde, dans la plaine de Naye, pas loin de Bétaram, tout proche de Lourdes. Ils sont le fruit de l'offrande de la prière des fidèles, de leur famille et de notre famille diocésaine. Je vous invite évidemment à continuer à prier pour les vocations, et je remercie tous ceux qui s'engagent dans cette prière depuis des années, et en particulier à travers nos deux chapelles d'adoration perpétuelle, tant à Bayonne qu'à Pau, où vous vous relayez devant le Saint-Sacrement pour frapper à la porte du cœur de Dieu, pour qu'il donne des vocations au don total dont nous avons tant besoin. Et je suis convaincu que le Seigneur va donner des vocations qui naîtront de votre prière et de votre offrande et du témoignage convaincant des prêtres, car toute vocation se réfère toujours à un prêtre qui donne sa vie pour le Christ et pour l'Église et qui suscite en nous le désir de répondre aussi à un appel au don total de soi. Il faudra sans doute mettre en place aussi des lieux d'accompagnement des vocations des jeunes du collège ou du lycée. Certainement l'année prochaine, un internat s'ouvrira en lien avec tel ou tel établissement d'enseignement catholique de notre diocèse pour accompagner des jeunes qui veulent avoir un vrai projet de vie chrétienne, si difficile quand même dans le monde d'aujourd'hui, et peut-être même un projet vocationnel, et j'en connais déjà quelques-uns, peut-être qui sont là. Mais je n'en dis pas plus. Car il y aura des vocations. Mais vous savez bien que la formation sacerdotale, le programme de formation sacerdotale est partie intégrante de la pastorale des vocations. Dis-moi avec quel sérieux tu entreprends cette formation sacerdotale à la fois humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale. Et je te dirai comment des jeunes peuvent en effet répondre à un appel et entrer dans un chemin de formation sacerdotale pour devenir, si Dieu veut, prêtre de Jésus-Christ. Pour aujourd'hui, je vous ai dit, écrit déjà sur le bulletin paroissial, diocésain, quelles devaient être les arêtes principales de cette formation. Mais peut-être que ce programme de formation est résumé dans le double patronage sous lequel nous avons voulu placer ce séminaire, cette maison de formation sacerdotale, le patronage des cinq cœurs de Jésus et de Marie, du sacré cœur de Jésus et du cœur immaculé de Marie, excusez du peu. Mais vous en voyez, vous, des formateurs mieux placés pour accompagner la maturation d'une vocation sacerdotale, une vocation au don total de soi pour le service de Dieu, pour le service de l'Église, pour le service des hommes. Saint Curé d'Ars se disait que le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus, le sacré cœur de Jésus qui est le signe, le sacrement, n'est-ce pas, de cet amour de Dieu poussé jusqu'à l'extrême en Jésus crucifié et ressuscité, qui exprime ce cœur de Dieu qui est saisi de pitié à la vue des hommes, comme nous le voyons si souvent dans l'Évangile. Lorsque Jésus voyait ces foules, il était saisi de pitié, comme le père de la parabole des deux fils, en particulier du fils prodigue. Il était saisi de pitié, pas seulement et d'abord pour les blessures de leur corps, de leur affection, de leur vie économique ou sociale, même si cela fait partie aussi du sentiment du cœur de Jésus, mais saisi de pitié, parce que ces foules étaient comme des brebis lasses et prostrées, sans berger, désorientées, déboussolées, cherchant un salut, une libération, la libération du cœur, une libération beaucoup plus profonde que celle que nous voyons avec nos yeux et qui nous émeuvent légitimement, l'attente du salut. Voilà une parole sûre, nous a dit saint Paul dans la deuxième lecture. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi le premier, je suis pécheur. Et c'est parce qu'il m'a pardonné, parce qu'il m'a libéré, parce qu'il a guéri mon cœur, que je peux être appelé un jour à être ministre de cette guérison et de ce salut. C'est cela l'Église, non ? Nous sommes tous bien d'accord, n'est-ce pas ? Comme nous le rappelle le Concile Vatican II, l'Église qui est dans le Christ, comme le sacrement du salut. Dieu veut sauver tous les hommes, il veut les sauver. Il n'est pas venu pour autre chose, comme nous rappelle le Concile, dans son code de droit canonique, en son dernier canon, le salut des âmes, le salut des âmes, c'est la loi suprême dans l'Église, qui mérite que l'on donne toute sa vie dans une intimité avec le Christ pour ressentir au plus intime de nous-mêmes cette pitié du cœur de Dieu, cette pitié du cœur de Jésus pour les hommes et les femmes dont nous sommes, moi le premier, je suis pécheur, je le répète, qui sont comme des brebis sans berger, qui ont besoin d'être sauvés, éclairés, confortés, consolés, guéris dans leur cœur. C'est pourquoi, chers jeunes qui entraient en première année de séminaire ou qui allaient être en stage dans une paroisse, l'essentiel de formation pastorale ne consistera pas d'abord dans des tâches d'animation de communauté chrétienne. C'est tout à fait secondaire. Et cela, ça s'enracine dans une grâce que vous n'avez pas encore reçue. Mais vous commencerez par humblement vous mettre au service des plus pauvres, des plus blessés par la vie. Pas seulement dans leur corps ou dans leur vie économique et sociale, car vous verrez qu'il y a derrière une souffrance plus fondamentale encore à laquelle nous sommes envoyés. Comme Jésus qui est allé à la recherche de la brebis perdue, qui n'est pas resté là en se disant « viendra qui voudra, hein ?»« Viendra qui voudra. » 600, bien sûr qu'il sera toujours libre pour accueillir ce don de Dieu, de cette miséricorde. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait, Jésus ? Et qu'est-ce qu'il entend que son Église fasse pour aller à la recherche de la brebis perdue, du plus souffrant, du plus blessé par la vie ? Qui est sans doute le premier aspect de la charité pastorale, mais vous ferez mieux encore. Vous participerez à des actions d'évangélisation directe. Vous irez témoigner auprès du tout venant de notre société sécularisée d'aujourd'hui, de cette bonne nouvelle de l'Évangile, de cette nouveauté de l'Évangile qui n'est pas déjà dans le monde, qui n'est pas déjà dans la vie des hommes, même s'il y a des pierres d'attente que je vous invite à discerner, ces fameuses semences du Verbe que Dieu a semées en effet dans le cœur de tout homme, de toute femme, qui a été créé à son image, mais qui est en attente d'une nouveauté, qui est la bonne nouvelle du salut, que seul Jésus peut apporter. Il n'y a que Jésus qui peut sauver les hommes, et c'est notre humilité, cela, n'est-ce pas ? Parce que vous croyez, vous, que par votre générosité, par tout ce que vous allez déployer d'énergie, pour aller à la recherche de la brebis perdue, pour panser les blessures de toutes sortes, des hommes et des femmes d'aujourd'hui, vous allez les sauver, prétentieux que vous êtes. Le seul qui peut sauver, c'est Jésus. Et si vous ne mettez pas les hommes et les femmes, et les jeunes d'aujourd'hui, en particulier en quête de sens, en relation personnelle avec Jésus, qui veut dire le Seigneur sauve, vous leur fermez l'accès au salut. L'agir divin, l'agir du Christ, dans les sacrements de l'Église, qui est au cœur de la vie chrétienne, qui est au cœur de la formation des séminaristes, qui est au cœur de la mission de l'Église, qui est mission de salut, et Jésus seul peut sauver. Quel programme qui nous est indiqué par le Sacré-Cœur de Jésus, ce cœur transpercé, d'où jaillissent le sang et l'eau, symbole de toute l'économie du salut, de l'Église et des sacrements, car Jésus-Christ, voilà une parole sûre, est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et le cœur immaculé de Marie, alors ? Comme disait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, quand je dis Jésus, l'écho me répond Marie. Ils sont indissociables. Marie est associée d'une manière unique et singulière à cette mission de salut qui ne pouvait être accomplie que par le Christ, qui est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, qui est le rédempteur des hommes. Mais il a voulu qu'elle y participe d'une manière particulière. Elle, qui est chargée d'une œuvre de médiation, qui ne fait pas nombre avec la médiation du Christ, qui n'est pas une médiation de rédemption, c'est celle de Jésus, là. Mais une médiation d'intercession. Comme dans la première lecture, n'est-ce pas, que nous avons entendu cette intercession qui fait partie de la mission de l'Église, qui doit intercéder pour les pécheurs, comme la Sainte Vierge Marie nous l'a rappelé si souvent, pas loin de chez nous, à Lourdes, un peu plus loin à Fatima, ou à bien d'autres lieux. Médiation d'intercession. Tout grand prêtre pris d'entre les hommes, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, a été établi par Dieu dans leur relation avec Dieu pour offrir dons et sacrifices pour les péchés, et nul ne peut s'arroger une telle dignité. Mais cela lui est donné par appel, gratuit, miséricordieux de Dieu. Marie, la Vierge Marie, qui non seulement est là pour nous apprendre à accueillir le don de la rédemption, mais pour entrer dans cette médiation d'intercession qui est si urgente pour l'Église et pour le monde d'aujourd'hui, qui sera là pour accompagner le parcours de formation de ces jeunes, en particulier à travers cette prière d'intercession qu'est la liturgie des heures, ce qu'on appelle aussi le bréviaire, qui est le premier ministère des prêtres. Le premier ministère des prêtres, à tel point que, dès le diaconat, on est tenu de manière grave, tous les jours, à accomplir humblement, c'est-à-dire avec obéissance, humblement, avec obéissance, cette prière d'intercession, pour que le cœur de Dieu puisse répandre toujours plus sa miséricorde à travers le ministère des prêtres, la consécration des religieuses et des religieuses, l'offrande de chaque jour des fidèles laïcs du peuple chrétien pour répandre sa miséricorde sur le monde qui en a tant besoin, car aujourd'hui c'est l'heure de la miséricorde qui jaillit du cœur de Jésus par l'intercession du cœur immaculé de Marie. Voilà le programme. Je le confie à votre méditation. Je le confie à votre prière. Et aujourd'hui, par la célébration de la messe, nous entrons dans ces sentiments qui étaient dans le cœur de Jésus lorsqu'il livrait son corps, lorsqu'il versait son sang, lorsqu'il donnait sa vie pour le salut du monde. Amen.
Vous venez de suivre l'homélie de notre évêque Mgr Marc Hayé lors de la messe de rentrée et de réouverture du séminaire diocésain de Bayonne le 11 septembre 2010. 11 jeunes qui suivront donc la formation en premier et second cycle du séminaire et 2 jeunes qui entrent en propédeutique. À la fin de la messe, Mgr l'évêque a signé le procès-verbal de la nomination du nouveau recteur du séminaire, l'abbé Jacques de Mesmé. Après l'Eucharistie, qu'ont célébré par de nombreux prêtres, le verre de l'amitié a permis aux fidèles de faire connaissance avec les jeunes séminaristes et propédeutes. Vous pouvez voir de nombreuses photos de cette messe sur le site internet du diocèse www.diocese-bayonne.org. Et pour terminer, nous confions ces 13 jeunes à la protection des 5 cœurs de Jésus et de Marie en les écoutant chanter. Lors de cette messe, ils ont interprété, prié cette prière de Saint Ignace de Loyola.